Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Eric Keke, un instructeur de self-défense très connu qui a participé à une vieille émission que j'avais vue avec des Américains qui faisaient le tour du monde, qui allaient tester différents styles et tout. C'est un ancien policier avec un parcours très intéressant, des moments un petit peu difficiles qui l'ont amené ensuite à quitter la police et créer son propre système de self-défense. Il a également formé les gens qui s'occupaient de protection rapprochée du président, de personnalité et tout ça. Donc voilà, un parcours très très intéressant et très riche. Je suis sûr que tu vas adorer notre conversation. Allez, c'est parti.
And now, this is the moment you have been waiting for.
Salut.
Alors, on fait semblant de se dire bonjour, mais ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. J'ai juste envie de dire comment je t'ai connu au départ. J'en parlais un peu avec François qui est caché là-bas. J'avais vu une émission dont je me rappelle plus le nom. Je sais plus, c'était Fight Quest ou.
Ah oui. Ouais,
avec deux Américains là.
Je me souviens bien. Ouais.
C'était quoi? C'était Fight Quest ou c'était une autre?
Je crois que c'était Fight Quest.
Où ils faisaient le tour du monde, ils allaient voir les arts martiaux, les styles de sport de combat, de ça, des différents pays. Et c'était à ce moment-là, je crois, que je t'avais découvert. Et j'avais dû te voir peut-être dans Karate Bushido aussi, quelques fois et tout. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas un peu raconter ton parcours, quitter et tout, pour les gens qui ne le savent pas. T'as un parcours assez varié et intéressant. Et puis, qui est intéressant aussi parce que t'as l'aspect... sport de combat, et puis l'aspect terrain de par ton métier de policier, quoi. Donc si tu peux nous dire un peu comment tu as commencé déjà les arts martiaux, j'aime bien savoir un peu le pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des arts martiaux?
En fait, j'ai commencé très tôt. Il faut savoir que j'ai commencé à la maternelle, pas les arts martiaux, mais à me bastonner.
Ouais.
Et que c'était, jusqu'à la troisième, en gros, c'était un véritable problème pour mes parents.
Okay.
Pour moi, parce que je me battais tout le temps. Donc, je revenais avec les habits tout dégueulasses. Et d'ailleurs, un des plus gros affronts que j'ai eu dans ma jeune carrière de combattant, c'est ma mère qui m'a mis une tarte devant le mec que je venais d'assaisonner.
Ouais.
J'ai un petit gars avec qui on s'embrouillait. Ouais. Il m'attend à la sortie de l'école. Moi, j'ai même pas vu ma mère. Tant que je le chope, je sais plus ce qu'on fait. Enfin, bref, j'ai le dessus. Et d'un coup, ma mère, elle arrive, me soulève et me fait une grande tarte dans la gueule et l'autre qui se fout de ma gueule. Tu vois le truc?
Ouais.
Et voilà, en fait, je le faisais pour défendre mon frère à l'époque parce que mon frère, il avait des petits problèmes, il avait un petit peu de retard et puis, tu sais, les enfants sont un peu cruels, quoi.
Mmh.
Et voilà mes premières entrées dans la bagarre. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté vraiment me défendre.
Ouais. Quoi.
Et le côté martial, le côté arts martiaux, c'est arrivé après. En fait, t'imagines bien qu'en grandissant, quand t'es un jeune mec, t'as plein de testostérone, tu vois, il y a tous les trucs qui poussent, et puis t'arrêtes pas de t'embrouiller, etc. Et puis, bon, déjà, j'avais des morceaux de plus en plus gros, parce que mon frère grandissait, puis il a qu'un an et demi de différence avec moi. Donc les mecs, tu commençais à avoir des beaux bébés en face, tu vois.
Ouais.
Puis j'ai failli me rater sur un mec, j'ai toujours gagné ces petites bastons-là, on va dire. Et j'ai failli me rater sur un mec qui était moins que ce qu'il est le dessus. Et j'ai pas supporté, t'avais beaucoup d'ego. Et je me suis dit, putain, faut que je prenne des cours de quelque chose, quoi.
Ouais.
Donc j'ai commencé par le judo. Pas mal, ça m'a bien plu. Puis le prof a changé, ça m'a plu du tout.
Okay.
J'étais attaché au prof, je le trouvais très pédago. Après, j'avais un mec que je trouvais beaucoup plus bourrin.
Ensuite, là, t'avais 14 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça, en gros. Et puis ensuite, j'avais le. Après, je suis passé. Alors, je vois, comme beaucoup de gens, un truc de Bruce Lee. Et je me dis, waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bruce Lee était assimilé au karaté, hein,
à l'époque.
C'était pas du karaté, mais tout le monde disait que c'était du karaté.
J'en ai déjà parlé, ça me fait mérisser le poil après quand tu connais Bruce Lee, qui était en plus assez anti-japonais. Il y avait un peu d'animosité, on va dire, à l'époque. Et dans ses films, il aimait casser du karaté, quoi.
Bah exact.
Du karatéka. Ouais. Et puis, c'était catégorisé dans les vidéos stores de films de karaté, quoi.
Bah ouais, voilà.
Et moi, j'ai fait du karaté aussi pour faire comme Bruce Lee, tu vois.
Exactement. À l'époque, il n'y avait pas d'ailleurs tant de propositions que ça, hein, parce que le karaté venait d'arriver. Non, c'était arrivé un petit peu avant, mais quand même. Et là, je me mets à faire du karaté. Et j'en ai chié un peu pour le karaté parce que c'était vraiment pas proche de chez moi. Fait que je prenne un vélo, fait que mon père, il me laisse sortir le soir. C'était toute une galère.
T'as grandi où?
En banlieue parisienne.
Okay.
Et donc Massy, tout ça, vers D'accord, Buisson, ouais. Massy, tout ça. Et il fallait que je traverse une cité qui craignait, d'ailleurs. D'ailleurs, les mecs, ils m'attendaient, c'était un rituel. Ils m'attendaient, ils me balançaient des canettes du... Ouais. Donc déjà, tu vois, je me mettais bien en condition. Je pédalais, je regardais. En plus, la cité, tu tournais, t'arrivais dans la cité, tac, tu tournais à droite, il y avait une grande côte. Ouais. Je faisais mon fractionné d'un coup, danseuse. Ah, et mec, un coup, il me coursait, un coup, il me balançait des canettes, un coup, tu vois. Et moi, j'arrivais là-bas, en karaté, et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment plu, fait du bien, quoi. C'était très martial. Bon, la discipline, j'avais l'habitude, parce que mon père était très dur. Donc ça m'a pas dérangé, puis d'un coup t'arrives, tu donnes des coups, tout, et puis voilà quoi. Et puis j'ai adoré ça, en vrai j'ai adoré ça, donc j'y allais deux fois par semaine, jusqu'au jour où j'ai fait quoi, après je suis parti à l'armée très tôt, donc je suis parti au collège militaire déjà, j'ai passé un concours prytanée militaire, je suis parti au collège militaire, là j'ai refait un petit peu de judo, il n'y avait pas de karaté. Après, je sais plus trop comment, mais j'ai fait de la... Après, je suis parti à l'armée faire mon service militaire pour me débarrasser. Je voulais faire du karaté, mais ils voulaient pas nous laisser sortir pour ça. Donc, je sais plus ce que j'ai fait. Si, j'ai eu mes premiers gants de boxe à cette époque avec un mec qui avait fait un tout petit peu de boxe anglaise qui me disait, viens, on va se foutre sur le groin, en gros, quoi. C'est en Bretagne. Un bon breton, le mec, sympa comme tout. Et j'avais des gros gants de 14 onces. On se scoutait sur la gueule et puis je me disais, mais ça fait mal. Je croyais que moi, les gants, ça faisait pas mal, tu vois. Jusqu'au jour où j'en ai pris un gros coup dans le tarbouif. Ouais. Voilà. Après, je suis sorti de là, j'ai bossé dans le civil. Plus du tout possible les créneaux de karaté, parce que j'étais dans la photo, un magasin de photos, on vendait des trucs, et je travaillais le samedi, bref. J'ai fait de la muscu à cette époque, après je suis passé, et je suis parti à l'école de police, un peu par hasard. Et à l'école de police, j'étais dans ma chambre, j'étais confronté avec un mec qui était devenu mon pote, et qui faisait de la boxe française.
D'accord.
Et le gars, un jour, c'était au tout début, il m'a dit « Ouais, c'est toi qui fais des... » Enfin, on était classé par spécialité sportive quand je choisissais. C'était l'école de police de Vannes. Donc moi, j'ai choisi sport de combat, bien sûr. Et avec des mecs qui faisaient des sports de combat et tout ça. Et il n'y avait que lui qui faisait de la boxe française. Il m'a dit « Bah viens, si tu veux, on va se confronter un peu. » Moi, j'étais sûr de moi, j'avais un physique impressionnant. J'avais fait un peu de maçonnerie et tout. J'étais sec, hyper musclé. Lui, il était moyennement gaulé, on va dire. Ouais. Je suis arrivé, j'ai fait mes séries de 70 pompes pour m'échauffer et tout. Alors lui, il en faisait 20, il était mort. Je me dis, je vais me le manger. Enfin, on a mis les gants, j'ai rien vu venir. J'en ai pris plein la gueule. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment? Moi, tu sais, je faisais des gros tsukis. Ah ouais. Le mec était déjà sur le côté. Boum, je prends un coup de pied dans le tarbouif. Ouais. Et je me suis dit, oula, je vais apprendre à faire ça. Et comme on est devenu très potes avec ce mec, et Gilles Parmentier, il s'appelle. Parmentier, la patate, tu vois.
Ouais.
Et donc, on a travaillé ensemble tout le long. On a fait plus. En plus, on faisait beaucoup de sports de combat dans cette section-là.
Ouais.
Et voilà. Donc, dès que j'ai quitté l'école de police, je suis arrivé pour bosser sur Paris. Premier truc que j'ai fait, j'ai pris un club. Donc, okay. Après, j'ai changé. Et après, j'ai fait de la compète en BF. Alors, j'ai fait de manière sporadique parce que comme j'avais un boulot qui me demandait beaucoup, avec des horaires très décalés, tu sais, en police. Puis j'ai des périodes où je me formais aussi beaucoup interne police pour faire passer des concours, des trucs comme ça, avoir des spécialités surtout. Ben voilà, j'ai fait des pré-combats d'abord, des combats après. En gros, en tout, j'en ai fait 10. Okay. J'en ai gagné 9 quand même. J'ai fait je dis un nul, c'est pas vraiment un nul, c'est plutôt perdu. En fait, c'est un nul, mais quand t'es dans un championnat, c'est le, comment on appelle ça, directeur de je sais plus comment on appelle ça, le DO, le délégué officiel, qui décide, puisqu'il faut continuer le championnat, ça peut pas être un nul, on peut pas la rejouer, qui a gagné. Okay. Sauf que là, le délégué officiel, c'était l'entraîneur du mec qui était en face.
Ouais.
Donc, je l'ai... Ouais, c'est pas grave, voilà. Mais c'était pour l'expérience, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la self-défense. Donc la boxe, j'ai adoré, j'adore toujours, mais à un moment, j'ai raccordé avec le truc self-défense.
Alors juste un truc pour revenir en arrière, parce qu'à un moment, tu m'as dit, je suis arrivé en école de police un peu par hasard.
Ouais.
C'est-à-dire comment on arrive en...
Alors écoute, j'ai fait un service long, je l'ai fait c'est un service militaire long à l'époque, donc un an et demi, je l'ai fait en gendarmerie. Comme je voyais plus mes parents, je revenais jamais en perme, donc je restais à la caserne, je me faisais copieusement chier, tu l'imagines, quand tous les copains étaient en perme. Donc je faisais du sport, je courais, je faisais plein de trucs, et puis un gendarme qui était très sympa, qui avait aussi une très jolie fille, je dois l'avouer, elle était super sympa, c'est devenue une copine, sa sœur aussi, tu vois, bon, des copains, quoi, ils avaient à peu près mon âge. Et lui, il a bien senti que j'étais un petit gars un peu tout seul, quoi, donc il m'accueillait chez lui pendant les permes et tout, vraiment adorable ce mec. Et il m'a dit, Eric, tu peux pas rester comme ça, t'as pas de boulot après la sortie, bah, tu passes pas le concours de gendarmerie, c'est naze. Il était gendarme, le mec. Hein.
Ouais.
Il dit, tu vois bien, on est corvéable à merci, etc. Donc, passe plutôt un concours de police. Moi, j'en avais pas du tout envie, en fait. Hein. Mmh. Moi, j'étais plutôt branché tour du monde et tout le truc comme ça à l'époque, tu vois. D'ailleurs, ouais. Et puis, non, je me suis dit, bon, allez, je vais faire plaisir, j'ai passé le concours. Fait vraiment étonnant, parce que j'ai jamais entendu reparler de ça plus tard. Je n'ai jamais eu de résultat de ce concours au début, enfin pendant un an, pendant okay. deux ans même, pendant deux ans. Donc moi, j'ai quitté après le service militaire, j'ai bossé dans la maçonnerie, j'ai bossé dans la photo, sans aucune nouvelle de truc. Mais comme j'avais très peu d'argent parce que j'étais payé au lance-pierre, bah, je coloquais chez un pote et sa mère. Et au bout d'un moment, je me suis dit, cette situation, on va falloir quand même que j'en sorte. Et ouais. donc deux ans après, j'ai reçu le truc comme quoi j'étais arrivé, en plus très bien classé, et qu'on m'attendait vraiment bizarre.
T'as jamais eu d'explication.
Jamais d'explication, et je n'ai jamais revu ça. Ouais. Moi, j'ai fait 14 ans en police, j'ai des gars qui partaient à l'école de police, j'en ai connu dans mon environnement, jamais ça s'est passé. Donc, je sais pas. Et c'est arrivé au moment même, en plus, tu vois, comme dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, où je me dis, bon, là, il faut que je trouve une solution, parce que je ne vais pas végéter comme ça. Mmh. Et voilà, c'est arrivé, je me suis dit, tiens, j'ai bien regardé le contrat qu'ils nous proposaient, en fait, t'étais payé pour apprendre. Je me dis, bah, pendant un an, t'es pris en charge, tu payes ni bouffe ni rien, tu vas faire du sport, bah voilà, tu vas te mettre dosé du côté, à la fin du truc, j'arrêterai tout, et puis je me casserai, faire mon tour du monde avec l'argent que j'aurais gagné, tu vois. Sauf que j'ai un truc que j'avais pas prévu, c'est que ça allait me plaire. Surtout parce que cette école à Vannes était super, j'ai eu des formateurs super, j'ai eu le formateur sport de combat qui était vraiment top. L'ambiance, tout m'a dit waouh. J'avais pas cette impression de là de la police au départ, mais là franchement j'ai adoré. Et qu'au même moment s'est ouvert le RAID, le service spécial de RAID. Donc moi je me suis dit, toi c'est là, je veux aller au RAID.
Ouais.
Donc je vais tout mettre en œuvre pour aller au RAID. Où je ne suis pas allé d'ailleurs. J'ai réussi le concours, mais je n'y suis jamais allé.
Et pourquoi ?
Ben, en fait, quand j'ai réussi le concours, ils ont dit on vous incorpore dans les 3 mois. La première proposition qu'ils m'ont faite, c'était 3 ans après.
Ouais.
Et j'étais à la protection du président de la République, dont je venais d'y arriver. Donc je me suis dit, je ne vais pas me barrer au RAID alors que je viens d'arriver. Tu vois, il y a un truc, une aventure qui commence, je ne vais pas l'interrompre pour. Et ils m'ont proposé 3 ans encore après, quand je projetais de quitter le groupe de la présidence. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont proposé, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui partait, parce qu'il y avait, à cette époque-là, pendant un certain temps, une très très mauvaise ambiance. Il s'est passé quelques faits.
Ouais.
Bref, et je me suis dit, bon, je vais aller dans un truc où il y a une très mauvaise ambiance, risquer ma vie. Il faut que, tu vois, il faut qu'au moins qu'il y ait une bonne ambiance, un truc. Voilà, donc j'ai choisi de pas y aller. Mais c'est un petit regret que j'ai quand même au fond de moi, parce que j'ai tout fait. Toutes mes premières années police, les premiers avant que je passe le concours, il a dû se passer 6 ans avant que je puisse être accepté au test du RAID. Parce que j'ai postulé vachement avant, mais j'étais pas assez vieux, pas assez de machin, tu vois. Et je me suis entraîné comme un malade pour ça.
Ouais. Ouais. Bon, bah après, c'est jamais perdu un entraînement.
Non. Puis en plus,
on progresse sur des choses
super intéressantes. Ouais. Regardez devant, pas derrière. Quoi.
Protection du président. Moi, j'ai un élève qui était en protection sous Sarkozy. Et bon, lui m'avait dit que c'était quand même devenu très, très compliqué en termes d'emploi du temps. Parce qu'il s'occupait déjà de lui avant qu'il devienne président. Mais le moment où il est devenu président, bah, je ne l'ai plus beaucoup vu. Et il me disait, ah, là, c'est l'enfer en termes de planning, quoi. Et toi, ça, t'avais vécu ça comment
Alors, c'est quand je suis allé à la présidence de la République, juste avant, j'étais formateur au service des protections de haute personnalité. C'est-à-dire que j'ai passé. Je suis arrivé au service de protection de haute personnalité, je crois que c'est vers 91, 92 peut-être. Et j'ai fait 2 ans, si je me souviens bien, ou 1 an et 6 mois, 1 an et demi, 1 an, 8 mois, quelque chose, aux étrangers. C'est-à-dire, je protégeais les étrangers qui venaient en France. C'était pas mal, je changeais d'équipe à chaque fois. C'était pas des missions qui duraient très longtemps, donc si c'était chiant, ça durait pas longtemps, tu vois.
Ouais.
J'ai appris plein de trucs. C'était vraiment un beau boulot. Et avec des horaires de ouf, hein. Je bossais les premiers temps 14 heures par jour, tous les jours, pendant 3 mois. Après, ça s'est un peu... c'était chaud, quoi. Donc, tu t'entraînes plus.
C'est vrai
que moi, qu'avant, je faisais quasiment que m'entraîner. Donc, d'un coup, j'ai commencé... D'ailleurs, ça m'a apporté plein de choses, parce que j'ai commencé à m'entraîner dans les chambres d'hôtel à 6h du mat.
Ouais.
Je dors pas beaucoup. Donc, je me lève très tôt. Donc, quelquefois, j'avais un pote qui voulait s'entraîner avec moi. Donc, on faisait de la self-défense. On mettait des coups de pompe, on sautait par-dessus le lit, on se tapait sur la gueule, enfin, c'était le truc de dire, quoi. Et donc, ça m'a apporté un autre aspect de l'entraînement, c'est beaucoup plus pragmatique, me dire, bah tiens, bah, c'est vrai, là, je suis bien quand je suis en salle, il n'y a rien, mais là, le mec, il vient de me pousser sur le pieu, il m'a mis deux coups de pompe parce que je ne l'ai pas vu arriver.
Ouais.
Je me dis, tiens, mais comment on gère ça, tu vois, ça m'a fait poser des questions aussi. Et puis, oui, alors, donc, pour l'Elysée, j'ai participé au recrutement des mecs qui y allaient, puisque j'étais à la formation. Et puis, moi, j'y suis allé aussi. Et j'ai, en plus, participé à l'entraînement hebdomadaire de tout. On était 3 ou 4 à faire ça dans le groupe. Donc, je suis moniteur de tir, de sport de combat, de technique de police, tout un tas de trucs. J'ai des diplômes d'enseignement pour ça dans la police, interne police. Donc, bah, j'avais une mission, en plus de ma mission de protection, c'était de former les autres. Donc, on s'entraînait pas mal, mine de rien.
Ouais.
Même, bon, on a beaucoup d'attentes. Mais voilà, on essayait de la gérer. Si on pouvait, on trouvait un créneau pour s'entraîner. Bon, et on fait beaucoup de muscu quand on est machin. Bon, moi, j'étais plutôt sport de combat. J'ai fait pas mal de muscu aussi là-bas. Parce que muscu, quand t'es dans un bureau, tu peux faire des séries de pompes, tu vois.
Ouais.
Tu peux faire plein de trucs, des kilis, des machins. Tu peux occuper ton temps. Le sport de combat, c'est un peu moins vrai. À noter quand même que j'ai trouvé, désolé pour mes copains garde du corps, mais j'ai trouvé, et on en parle toujours avec des copains, que j'ai toujours trouvé que l'entraînement... en lui-même, self-défense n'est pas très développé, malheureusement.
Les techniques police, tout ça, tu les trouves pas... Moi, je sais que celui qui s'occupait de Sarko, il était venu parce que lui, il avait 18 ans de boxe thaï. Il m'avait dit, mais je peux rien utiliser de la boxe thaï.
Voilà.
Il était venu pour le Wing Chun, tu vois.
Moi. Bah ouais.
Il me disait, je m'en suis servi plus d'une fois parce que tu peux pas faire des choses violentes. Il dit, quelqu'un qui tend une main vers le président, bah, il la déviait comme ça et tout. Mais il dit, je vais pas choper le mec en clinch et lui mettre des coups de coude et des coups de genou, quoi.
Bah, t'as bien résumé ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, la self-défense, elle se développe en fonction de ta fonction. Je veux dire, tu crées un truc, tu étudies les circonstances, le contexte, et tu dis, voilà ce que je peux faire. On faisait passer les tests, d'ailleurs, c'est moi qui ai en partie changé ça à l'époque. On faisait passer les tests essentiellement autour de la boxe. Sauf que tu vas jamais mettre un gros pain à quelqu'un. Voilà, au pire, tu vas l'attraper, le foutre par terre, mais tu vas pas mettre des gros pains devant les caméras et tout ça, ça va pas le faire, quoi.
C'est ça, ouais.
Donc après, moi, quand j'ai fait passer les tests dans ces groupes-là, parce que comme j'étais de la formation aussi, je faisais passer les tests, tout ça, j'ai dit, mais je vois pas pourquoi les grappleurs, ils sont pas valorisés dans ces tests-là, que c'est plus des réactions de grappleurs qu'il faut avoir que des réactions de boxeurs.
Ouais.
Et on avait trouvé un compromis, on faisait un round de boxe, un round de sol, quoi, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus des trucs où tu vas gripper, faire des trucs discrets, tu vas, voilà, à la limite, t'emmènes à terre. Mais c'est beaucoup de grippe, en fait. Hein.
Ouais. J'en parlais à François, mais c'est un truc que moi, j'avais développé mon système aussi de self-défense. Et plus le temps est passé, et plus je me suis orienté vers des techniques de lutte. Je trouve en fait ça beaucoup mieux de ne pas avoir à frapper si on peut ne pas frapper. Alors bien sûr, ça peut poser les problèmes de gabarit, mais face à quelqu'un, alors tu sais pas qui t'as en face, mais face à quelqu'un de novice, il y a pas mal de choses qui, même si t'as pas un avantage en termes de gabarit, qui vont fonctionner, tu vois. Et surtout, c'est des techniques un peu non violentes qui peuvent te créer une ouverture vers une fuite, tu vois.
Exactement.
Pas être dans la. Moi souvent, ce que je dis, c'est le meilleur moyen de se faire mettre KO, c'est de se battre, en fait, tu vois. Donc si tu peux trouver un moyen de t'en sortir. C'est facile de dire faut fuir, mais il y a des moments où tu peux pas fuir. Par contre, il faut avoir des outils, des techniques qui vont te permettre de fuir, tu vois. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes, je trouve, de cette défense qui parfois rentrent trop dans la bagarre. Et pour moi, c'est une prise de risque, tu vois, de rentrer dans la bagarre.
Ouais, alors tout dépend. En fait, moi, j'ai une philosophie un peu particulière là-dessus, mais je te rejoins. C'est en fait, si on parle de self-défense, tu sais, il y a la réalité, il y a le fantasme de la violence. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment la violence. D'abord parce qu'ils ont vu que des films.
Ouais.
Et puis parce que, ou alors ils s'entraînent et puis ils sont dans ce qu'on appelle l'érotisation de la violence en psychologie. Ça leur fait plaisir. D'ailleurs, tu as des réactions. J'ai même des réactions en stage où je montre à des gens comment fuir, parce que c'est pas évident de fuir, ça s'apprend.
Ouais.
Et il y a des mecs, il y a des réactions, c'est des mecs, hein, souvent, qui disent, ah, moi, jamais je fuis, même pas en rêve. Moi, le mec qui manque de respect, je l'explose. Et je leur montre, je dis, un simple mec enflé comme une arbalète, qui a un couteau sur toi, et t'es mort, mon pote. Au moins, t'es blessé gravement. Mais il y a plein de gens qui veulent pas le reconnaître. Et en fait, il y a la self-défense, pour moi, c'est très vaste. Hein. C'est un savoir-être avant, déjà. C'est, tu t'embrouilles avec un mec, comment tu peux calmer le truc? Lui montrer que t'as pas voulu manquer de respect, mais que si, que ça. Qui t'as en face de toi? Comment tu évalues, toi? Quelles sont les billes? C'est quoi comme mec? C'est comme type de mec? C'est un mec qui est énervé parce qu'il croit que tu lui as fait quelque chose? Ou c'est un mec qui a une stratégie type prédatrice pour te... qui a mis un truc en plan pour, voilà, pour créer une réaction chez toi et éventuellement quelque chose? Est-ce que... Voilà, donc déjà, ça, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et en fait, tu t'aperçois que quand tu es logique, tu as connu la violence, que je l'ai connue, je me suis battu, j'ai vu ce que ça donnait, c'est qu'en fait, la problématique, c'est que tu t'en sors rarement vainqueur. Alors, je ne parle pas forcément physiquement, hein, ouais. Mais à l'heure actuelle, il y a les portables. Il y a les dépôts de plainte systématiques des mecs qui ont agressé. C'est de plus en plus courant. Les mecs qui t'agressent, ils déposent plainte. Ils n'ont pas de figure. Hein.
Ouais.
En fait, il n'y a que des emmerdes. Alors, on peut dire, parfois, j'ai bien senti ça dans les yeux de certains de mes interlocuteurs, qui, en gros, comme quoi je suis une baltringue, quoi, tu vois, que je me débine, machin, c'est pas du tout ce que je pense être. Je pense que même j'ai un peu d'expérience dans le domaine, certainement plus que certains qu'on parle tout le temps et qui, voilà. Et que la baston, c'est pas la solution, en gros. Si t'arrives à la régler, c'est bien. Après, par contre, faut être tough, faut être dur, faut être t'entraîner dur, parce que prendre un coup dans la gueule, faut savoir l'encaisser, hein. C'est pour ça que moi, j'aime toujours... moi, chaque semaine, je me confronte. Je fais des assauts. On s'appuie. Il y a plein qui pensent que je fais du blabla parce que je montre des trucs de garde passive, etc. Mais non, chaque semaine, je prends des coups. Là, j'en ai pris aujourd'hui. Tu vois, je suis étonné d'ailleurs pas avoir de... J'ai pris une grande droite dans ma gueule. Je suis étonné de pas avoir de coca. Mais c'est bien, tu vois. Je me suis fait ouvrir la lèvre aussi. Voilà, je sais ce que c'est de prendre un coup dans la gueule. Et je continue à toujours le cultiver, ce truc-là, parce que c'est important.
Ouais.
Même si moi, je vais pas chercher d'emblée à friter avec quelqu'un.
Mais c'est sûr qu'on est un peu dans une société un peu aseptisée où il y a beaucoup. Alors, je trouve que c'est vraiment deux opposés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent la violence, qui la connaissent, et des gens qui la connaissent absolument, mais pas du tout. Exactement. C'est-à-dire des gens qui ont presque jamais eu mal de leur vie et qui sont, comme tu dis, complètement déconnectés de la réalité et qui se pensent. D'une certaine manière, alors qu'ils n'ont jamais vécu de situation comme ça, tu vois. Et en fait, c'est sûr que c'est pas dans la rue, en situation d'agression, qu'il faut que ce soit la première fois que tu te prennes une patate dans la gueule, tu vois. Ou que tu souffres, ou que t'es mal, tu vois. Ou que t'es quelqu'un qui te mette une pression psychologique, ou tu vois. Parce qu'il y a quand même beaucoup de psychologie aussi, je trouve. Je sais que toi, t'abordes ça, il y en a qui essayent d'aborder ça, mais la confrontation aussi, l'assurance que tu peux avoir face à quelqu'un... ça joue énormément sur la suite de ce qui va se passer.
Grave.
Et sur la capacité à désamorcer. C'est très dur de désamorcer en ayant peur, en n'ayant pas confiance.
Exactement,
ouais. Et l'autre, il va le sentir. Et plus il va le sentir, et plus il va continuer, tu vois. Il sent qu'il a un ascendant. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile, par contre, à travailler. Tu vois, je trouve, on peut faire de la mise en situation. Et c'est pour ça que parfois... il y a des gens, tu vois, qui vont critiquer certains styles, c'est pas applicable, c'est machin, tout ça. Peut-être, mais la confiance qui en résulte,
exactement,
même si elle peut être illusoire, il y en a qui disent, ouais, mais c'est illusoire et tout ça, c'est pas grave, parce que cette confiance-là, elle peut faire la différence.
C'est étonnant ce que tu dis, parce que je suis en train d'écrire un bouquin, là, donc je bosse tous les jours dessus, et il y a un chapitre où j'aborde, je dis exactement ça. Même que quand les gars, ils pratiquent quelque chose qui n'est pas, à mon avis, opérationnel, ça leur donne quand même une confiance qui, souvent, va éteindre l'agression, parce qu'il y a quelque chose qui émane d'eux, où
c'est
tu
ça.
Dis, ah, le mec, il va pas se laisser faire, etc. Même si c'est un foireux, ou que son... Voilà, mais en tout cas... Si t'as confiance, c'est sûr que ça va mieux.
Mais oui, moi j'étais très bagarreur aussi comme toi, enfant, jusque dans l'adolescence. Et ce côté, cette capacité que j'ai encore aujourd'hui, mais que je maîtrise vraiment très bien, mais tu sais, à switcher d'un instant à l'autre très facilement, à pétage de plomb, mais à une expression de la violence assez facile. Tu vois, les gens, ça reste en eux, ou ils n'arrivent pas à le sortir. Moi, ça me venait facilement. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir... d'une fois à la confiance où je suis allé voir 8 mecs et c'est eux qui sont partis, tu vois. J'ai poussé le leader qui venait, machin, et je me serais fait complètement éclater à 8 contre 1, tu vois. Et ben c'est eux qui sont partis. Je les ai regardés partir, ils ont fait demi-tour, ils ont fait complètement fou, lui. Mais en réalité, d'un point de vue opérationnel, je me serais fait défoncer.
Ouais.
Mais la confiance a fait que ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ou je sais pas s'ils se sont dit peut-être que j'étais armé ou quoi, ou j'étais complètement fou, mais j'y suis allé tout seul à 8 contre 1. Tu vois, et ça, c'est la... Alors, c'est pas du tout une bonne idée, mais c'est la confiance en moi et un peu le côté pétage de plomb qui a fait que je m'en suis sorti, tu vois.
J'ai un de mes potes qui faisait très bien ça, qui était un nul en baston, mais alors très, très fort, c'est un vendeur. un copain qui s'appelle Rachid, très très bon vendeur, et le mec, je l'ai vu retourner comme ça, psychologiquement, trois mecs, qui étaient vraiment, bon pour le coup, comme c'est un arabe, ils étaient vraiment anti-arabes, enfin il y avait un truc de cet ordre-là. Et lui, il est allé les voir, et il les a fait flipper. Et il m'a dit, je leur ai mangé le cerveau, j'ai bien aimé le... Parce que lui, il sait pas se battre, hein. Il a des broches partout, il a eu des accidents et tout. Mais par contre, quel bon acteur, quoi.
C'est ça.
Il a la gueule et tout, il les a eu comme ça.
Exactement, hein. Mais moi j'en ai vu... Enfin, quand on est dans les sports de combat, dans les arts martiaux, on a plein de profils qui viennent s'entraîner et tout, et c'est vrai qu'il y a des gens... Tu vois qu'ont un profil qui pourrait faire peur, et puis tu les vois à l'entraînement derrière, tu fais.
Ouais, exactement,
il fait pas peur du tout, en fait. Tu vois.
Et l'inverse, t'as l'inverse aussi.
Ouais, c'est ça. Et t'as des gens.
Gamin tout sec, et puis qui te déchire.
Exactement.
J'ai vu ça aussi, là.
Mais dans la rue, parfois, ce qui va être le plus important, c'est le paraître. Parce que c'est toute cette phase de départ. Et c'est vrai que moi, je fais vraiment la distinction entre l'agression et l'embrouille. Tu vois. Et l'embrouille, tu peux la désamorcer. Tu vois. L'agression, c'est une autre histoire. Déjà, c'est rarement du 1 contre 1. Tu le vois pas forcément venir. Voilà. Et c'est notamment pour ça que je t'entendais qui disait le couteau, il y a un mec qui te le sort, t'es mort et tout. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait une vidéo qui avait déplu à beaucoup de personnes. Je parlais du Krav Maga, mais parce que c'était en réponse à quelqu'un du Krav Maga. Mais j'avais rien contre le Krav Maga, tu vois. Mais donc, il y avait pas mal de gens de la communauté du Krav Maga qui l'avaient mal pris parce que eux, ils axent beaucoup leur communication sur les techniques couteaux. Moi, j'y crois pas aux techniques couteaux, mais ça n'engage que moi. Je dis pas que. Enfin, voilà, c'est mon opinion. Mais c'est vrai que, d'un point de vue pratique, si c'est quelqu'un qui vient t'agresser, qui te sort un couteau, il veut obtenir quelque chose, tu lui donnes. Tu risques pas ta vie, tu vois. Après, les gens, ils partent dans les scénarios. Oui, mais s'il veut violer ta femme, et si... ça arrive pas très souvent.
Bah non.
Tu vois, c'est. Je sais
pas. Tiens le couteau, je vois ta femme.
Mais voilà, c'est des trucs. Voilà, on n'a pas des psychopathes à tous les coins de rue.
Non.
Et si par contre, c'est un psychopathe, c'est un mec qui sort un couteau pour te tuer, la plupart du temps, tu le verras pas. Et voilà, déjà, c'est fini. Quoi. Déjà, c'est.
Exactement,
à la première étape. Parce que presque toutes les mises en situation, moi, que je vois. Il y en a qui font des efforts, il y a Greg MMA, il fait des trucs intéressants, des fois il fait des échanges.
Mais
même encore là, je trouve ça très bien, mais le postulat de départ, c'est quand même un mec qui te sort le couteau et tu le vois. Tu vois ? Tu sais pas forcément quand il va t'attaquer, comment il va t'attaquer et tout, mais déjà tu sais qu'il a un couteau, tu sais qu'il est là pour t'attaquer.
Exactement.
Et donc déjà ça change tout, tu vois, sur ta capacité à te défendre. Un mec, on le voit, malheureusement on en a eu des attaques au couteau.
J'ai jamais personnellement, pour le coup, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai jamais vraiment trouvé de réponse 100% efficace. Quelquefois, t'as des coups de bol. Alors, j'arrive à diminuer le nombre de fois que je me fais tuer dans l'entraînement. Mais jamais zéro. En plus, il se trouve que moi, j'ai vraiment pris un coup de couteau, en plus, dans le genou. Et sur une embrouille, en fait. Hein, et effectivement, j'avais pas vu le couteau. Hein. J'ai eu le mec, il a fait un geste très rapide. J'ai eu la bonne idée de lever mon genou pour protéger, sinon je le prenais dans le bas-ventre.
Ouais.
Et j'ai chopé son couteau dans le genou. Mais voilà, donc j'ai travaillé ça sincèrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour travailler sincèrement? Je suis à côté de la plaque quand même, hein, mais j'ai pris des potes, des bons combattants. Je précise, bons combattants, parce que... Enfin, je vais expliquer après. Donc, je leur ai dit, bon, t'as un couteau. Maintenant, tu m'attaques comme tu veux avec le couteau. Je casse, vitré pour pas me faire percer les yeux. Et puis voilà, donc après, j'ai cherché. Je prenais des notes, j'ai fait ça très longtemps. Et après, une fois que je me sentais un peu sûr avec eux, je faisais des courts couteaux. Et puis, en fait, je me faisais planter par les débutants totaux. Parce que mine de rien, quand le mec, tu t'entraînes avec, pendant un moment, il commence à avoir des formes de corps. Il aime bien jouer au couteau, il prend des formes de corps. Le mec qui, le débutant, il a peur de toi, t'es le prof. Il fait un espèce de truc tout pourri, il sait pas trop comment faire. Et toi, tes grandes théories sur le couteau, tu le prends. Bon, d'accord, ok. Donc, je me suis... Il y a un autre truc que j'ai bossé aussi là-dessus, c'est que le mec... La plupart du temps, hein, les gars qui ont un couteau, ils tapent avec le couteau. Hein. On le voit bien dans les vidéos. J'en ai vu aussi des agressions en vrai. J'en ai vu deux, dont un mec qui est mort est sous mes yeux. Hein. C'était un coup de couteau, plaf, et puis voilà, quoi. Bon, souvent, les mecs, ils travaillent pas avec les poings, les pieds avant, tu vois. Alors, il peut y avoir le mec, j'ai jamais vu en vrai, mais j'ai vu ça dans des vidéos, il peut y avoir le mec qui vient te masquer la vue et machin. Et là, t'as quasiment pas de chance, tu vois. Alors, je me suis dit, on va bosser ça avec les potes et tout. Ils ont le droit de me mettre des coups de pied, des machins, etc., en plus du couteau. On t'arrive à des trucs. Moi, je rejoins un petit peu Greg MMA. C'est qu'à un moment, si t'arrives à immobiliser isoler, et j'ai exactement la même réponse que lui, les coups de tronche. Parce que quand t'as les deux mains prises, tu vas pas mettre des coups de pied parce que t'as besoin de tes appuis, surtout que tu les baisses vers le bas. Et ce qui fait que quand tu vas vers le bas, le mec il a tendance à relever la tête pour compenser la force en force opposée. Mmh. Il est très exposé au niveau du menton. Donc le coup de tête est pas mal. Mais non, moi j'ai en fait je l'analyse de la façon suivante. En fait, pour faire très court, je fais de la pédagogie de la découverte pour le coup aux gens. Je leur dis, écoutez, moi j'ai jamais rien trouvé de vraiment fiable, mais je vais vous faire visiter un petit peu ce que j'ai, le peu que je connais là-dessus, si vous voulez suivre le guide. Alors je leur dis, bon, là on va partir du postulat que vous voyez le couteau et que le mec est loin. D'accord, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on travaille la fuite, on travaille les armes par destination, comment je fais avec ma ceinture, avec une chaise, avec tout ça, etc. Après je dis, bon maintenant, on dit que vous allez voir le couteau encore une fois, vous êtes chanceux, mais vous le voyez de très près.
Ouais.
Et pas de possibilité de vous enfuir, puisque vous êtes au bar, par exemple, on parle d'un bar et tout. Et là j'ai des jeux pédagogiques qui marchent plutôt pas mal, qui affinent un peu les trucs. Et puis après je dis, bah, l'autre truc c'est que le mec il a un couteau et vous le voyez pas. Alors, moi ce que je fais beaucoup... dans ma salle, même systématiquement, puisque on fait de la boxe de rue, de la défense de rue, ben, moi, je distribue des couteaux dans les vestiaires, aléatoirement. Et les mecs, par exemple, quand ils vont faire toute leur situation, tout, en suivant mon cours dans la soirée, je lui dis, ils ont l'habitude maintenant, je lui dis, il y a juste un moment dans la soirée où tu vas te sortir et tu vas planter. Même quand tu es en assaut avec un mec, tu plantes un moment. Et comme ça, tout le monde commence à prendre en compte dans la tête que peut-être il a un couteau. Parce que c'est ça, parce que dans la rue, c'est ça. Peut-être il a un couteau, et c'est même certainement d'ailleurs. Et quel est le geste de sortie du couteau? Le geste vraiment que tu modélises, le petit signal qui est discret généralement, la main qui va là, la main qui va là, et que tu ne vois pas quand tu es en version tunnel. Donc comment tu affines tes perceptions pour voir ce petit truc? Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et après, ça c'est ma découverte à moi, hein, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a un truc qui... J'ai vu un mec, un anglais, là, qui fait des pubs en cassant du sucre sur tout le monde. Là. T'as vu, il y a un mec là, qui sort une nouvelle méthode, je sais pas quoi, et il dit que tout ce qu'est en crave, en penchak, en tout ce qu'on fait, en fait, c'est naze. Et il dit que lui a trouvé la solution, en gros. Mais par contre, je suis assez d'accord avec le peu que j'ai vu, parce que je me suis pas inscrit à sa formation. C'est un truc qui marche très bien, c'est un gros doigt dans la gueule. Très bizarre. J'ai souvent fait ça, moi, en libre, contre couteau. Le mec, tu le tiens, puis d'un coup, en fait, parce qu'il a un couteau, il baisse, il n'est pas en garde, en fait.
Oui, tu t'oublies
et
tout le reste.
Il oublie tout le reste. Et la méchante droite dans la bouche, ça marche plutôt pas mal. C'est, voilà. Après, en crave, ils ont aussi, tu sais, le chassé frontal, le défonçant. Quand le mec approche, je trouve que ça marche pas mal aussi. Après, voilà, moi, je pense que je suis vraiment sur le truc de la non-concurrence. Moi, que ce soit Krav, Penchak, tout le reste, c'est des mecs qui font le même métier que moi, qui cherchent comme moi avec la même sincérité. Ils trouvent des trucs que moi, j'ai pas trouvé. Et inversement, donc c'est des patus qui disent souvent la vérité, personne n'a la vérité, chacun a une parcelle. Quand je vois des affrontements là-dessus, via Internet, oui, c'est nous les meilleurs, vous êtes nazes. Bon, je trouve ça un peu con, mais bon.
Mais c'est vrai que parce qu'en fait, les gens, ils ont du mal à accepter, ils ont accepté une réalité qui est la leur, qui est ça fonctionne et tout. Et déjà, souvent, ils ont du mal à accepter qu'il y ait autre chose qui puisse fonctionner. Ou ils ont du mal à accepter qu'on puisse dire, bah non, en fait, ça marche peut-être pas pour tout le monde dans toutes les situations, ce que tu fais. Ou carrément, moi, je trouve que ça marche pas du tout, tu vois. Mais moi, le couteau, j'ai pas mal travaillé aussi à une époque. J'ai testé plein de trucs. Même, je faisais des fois dans les cours un truc tout bête. Alors, il aurait fallu faire sans doute une action qui... Mais c'était plus pour faire prendre conscience aux gens, mais tester la fuite, ça marchait pas non plus. Il y en a, je disais, bah vas-y, tu sors un couteau, ok, et maintenant, bah, l'autre, il a le couteau en face de toi, toi, t'essaies de te barrer. Bah en fait, le mec, s'il veut te courir après, le temps que tu te retournes et tout, se faisait planter dans le dos à chaque fois, tu vois. Donc il faudrait entamer une action sur quelqu'un qui a un couteau, ça reste quand même risqué. Mais même la fuite, c'était quelque chose de complexe.
Imagine, là, regarde, tiens, par exemple, si je fuis, tu sors un couteau, il faut que j'ouvre la porte.
Donc
je vais me faire planter, moi j'ouvre la porte. Non, il y a des moments où tu peux pas fuir. Hein.
Et puis, tu disais, tu vois, le mec doit sortir le couteau, mais t'as aussi tous les cas où dans la rue, le mec il a le couteau dans sa poche.
Ouais, bien sûr, il a la main
dessus. Il a une attitude normale, et d'un seul coup il sort, il plante. Il vient te voir, il te demande, si c'est quelqu'un qui veut te tuer, il vient te voir, il te demande sa direction et tout, et pendant que t'es en train de dire, ah bah il faut aller par là, bah.
Flac.
Mais c'est impossible, tu vois, c'est impossible à. Enfin, il y a pas de. Et ça, c'est un. Enfin, moi j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc qui est très dur. Psychologiquement à accepter, c'est dire bah ouais, en fait, sur ça, j'ai pas de solution. Si ça m'arrive, je suis mort, quoi, ou je pourrais pas m'en sortir.
Très, 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 très peu de chances de survivre. Nous, pour le faire, je te dis, dans des conditions d'entraînement qui ne sont pas des conditions réelles. Mmh. Je sais que potentiellement, machin, t'es chaud, tu sais que le mec est bienveillant, que machin, etc. Mais déjà là, tu te fais planter plein de fois.
T'as des chances sur un neuneu, sur un mec qui fait une attaque de merde et tout.
Ouais.
Mais l'exemple que je prends souvent, c'est est-ce que t'arrives à attraper un jab d'un mec ?
Voilà.
Non, moi, j'arrive jamais à attraper un jab d'un mec.
Ouais.
Tu vois ? Alors, si c'est un mec qui fait un grand mouvement bien large, qui vient d'en bas, peut-être que tu vas pouvoir, bah, comme fait Greg MMA, rentrer sur des saisies, faire des arm drag de lutte, des choses comme ça, ok. Mais si c'est un mec qui, je sais pas comment ça s'appelle, là, les daggers, là, les...
push dagger.
Push ouais. dagger, qui se met à te boxer avec ça, mais c'est, enfin, jamais tu vas l'attraper,
bah
le
non,
truc.
Non, non, non.
Tu te fais trouer.
Les vidéos... Alors, de ce que j'avais vu, moi, parce que j'étais encore flic quand j'ai étudié vraiment ça, il y avait énormément de mecs qui plantaient avec la colère, hein, donc des stocks en pointe. Donc, ils rentraient et c'est la machine à, ouais. la machine à coudre, ils t'en font plusieurs comme ça. Donc, effectivement, là, attraper, tu vois, une fois que t'as pris enfin, ça peut, mais t'as quand même du sang, ça glisse aussi, il faut prendre ça en ligne de compte. Après, j'ai regardé beaucoup, il y a une étude qui est parue l'année dernière sur le net que j'ai beaucoup aimé. C'est un mec qui avait compilé toutes les vidéos de surveillance avec plein d'attaques et qui faisait une analyse qui n'était pas inintéressante, où j'ai appris encore un truc que je n'avais pas envisagé, malgré le fait que ça fait longtemps que je m'intéresse à la question. La plupart du temps, donc, les mecs n'ont pas vu le couteau, et ils ont la sensation de prendre des coups de poing tout foireux. Le mec, il les tape comme ça, très large.
Ouais.
Bam, bam, tu sais, comme un mec qui ne sait pas se battre, qui essaie de te donner des coups là. Et tu vois que dans les premiers temps, les mecs, ils se disent, bah, qu'est-ce qu'il me fait ces coups de poing de merde là. Et donc, ils paniquent pas en fait.
Ouais.
C'est des coups de poing de merde. Et puis, même quelquefois, ils essaient de riposter, etc. Jusqu'à un moment, ils s'apercevoir qu'ils sont percés en fait déjà. Ouais. Ça fait 4-5 trous qu'ils ont quoi.
Ouais.
Et là, c'est pas la même là.
Ben
et donc, t'as la pression artérielle qui baisse. Enfin, il y a tout le truc quoi.
Ouais.
Et par contre, j'ai remarqué que souvent, les attaques des mecs, c'est quand même des trucs assez frustres. C'est-à-dire, tu vois, large qu'on.
Large, ouais.
Donc, c'est comme les coups de poing dans la gueule, hein, en fait, t'as vu, hein, dans réalité, c'est souvent assez large quand même. Hein.
Ouais.
T'es rarement sur un mec qui te fait un beau jab.
Bah, c'est
bon,
c'est très téléphoné, quoi.
Ouais.
Si t'as réussi à pas rentrer dans un mode de stress où toi, t'es un peu en paralysie aussi, tu le vois beaucoup venir, quoi.
Ouais.
Théoriquement.
Ouais.
Surtout si t'es quelqu'un d'entraîné, là, pour le coup de poing, Ouais. Il fallait que tu sois en mode tunnel et que... Voilà, que tu sois pas dans un bon état psychologique pour pas le voir arriver, parce que j'ai rarement vu moi aussi.
Ouais, ça c'est lent en fait.
Ouais, c'est lent.
C'est lent.
C'est lent. Et c'est très téléphoné et c'est lent. Donc, si t'es un minimum entraîné, normalement tu dois pas le prendre.
Ouais.
Mais là, après, les facteurs stress, surprise,
bah,
des fois t'as pas eu le temps de monter.
Exactement.
Tu vois, moi, ce que je racontais, j'avais raconté déjà ça, je vais pas le raconter, mais une histoire où bah, j'ai assisté à une scène et j'étais pas du tout dans l'état d'esprit. Et au départ, bah, j'étais un peu passif. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça finit par m'énerver. Et là, je suis monté, tu vois. Mais si le mec était venu me taper dessus au moment où moi, j'étais pas du tout dedans, bah, peut-être que ma réaction n'aurait pas été bonne, parce que t'as une dissonance entre lui, son état, et le tien. Et c'est pour ça que je parlais de cette capacité à switcher. Il faut être... T'es là, tout va bien dans ton quotidien. Et d'un seul coup, t'as pas de temps de phase de préparation, ça change du tout au tout, et t'as forcément une sorte de composante de surprise qui fait que parfois tes réactions, même si tu les as bien bossées et tout, que t'aurais pu être préparé, bah t'étais pas dans le bon état mental, tu vois, pour réagir quoi.
Exactement, et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est ce que j'appelle moi le retard à l'allumage, que j'avais notamment quand j'allais en police sur des interventions un peu chaudes, tu vois, t'es en train de bouffer un sandwich, c'est la pause, t'es bien fatigué... Ah ouais, venez les mecs, il y a une baston dans un bar, tout. Ah, tu montes et là, tu te dis, bon, putain, je suis sur la digestion, je suis pas énervé du tout, il va falloir que j'y aille, que je m'asmate avec les mecs et tout. Et j'ai trouvé un petit protocole qui marchait très bien pour moi. Après, j'ai découvert qu'en fait, j'ai fait de l'auto-hypnose, parce que maintenant, je suis hypnothérapeute aussi. Hein.
Okay,
j'ai passé tout un tas de trucs là, sur les deux dernières années. Et j'ai compris après ce que je faisais intuitivement, en fait. En fait, je me préparais. Et moi, il y a une situation, justement, où mon frère, quand il était plus jeune, s'était fait agresser. Une situation, encore à l'heure actuelle, quand j'y pense, ça m'énerve direct. Et en fait, ben, le protocole, c'est le suivant. Quand j'ai du retard à l'allumage, je pense à cette situation. Et ça, tout de suite, ça me refait monter dans le truc. Quoi. Ça me remet dans des conditions. C'est un ancrage. Hein,
c'est un ancrage, ouais.
Et puis, je redémarre avec ce truc-là. Je peux être capable de repasser en actif assez intense. Voilà. Et je faisais ça après, quand je montais sur des... Tu dis, bon, allez, là, il va falloir y aller. On va... Mmh. Ça va maillocher, certainement. On va falloir... Et go.
Du coup, tu t'activais comme ça.
Et je m'activais comme ça, pour pas avoir de retard à l'allumage. Parce que moi aussi, j'ai été confronté à ça 2-3 fois. Notamment une fois, là, il n'y a pas si longtemps avant que je quitte Paris. Je m'en suis voulu, hein. Mais alors, je sortais d'un cours de yoga. Mmh. D'accord ? J'étais zen, mais zen. Un printemps, et le métro aérien, il fait beau, c'est beau. Cool. Et j'allais voir mon ostéopathe, qui est un pote en plus. Et là, il y a un petit mec qui arrive. Il a son téléphone portable à donf, il écoute du rap. Il y a une grand-mère à côté qui dit « Oh, monsieur, vous pouvez éteindre et tout. » Il lui dit « Ferme ta gueule, sale pute. » À une ancienne, hein, elle avait plus de 70 ans.
Ouais.
En temps normal, c'est pas du tout un truc que je laisse passer, quoi, tu vois.
Ouais.
Et en plus, j'avais, j'avais des trucs sur moi qui pouvaient me permettre de... Tu vois. Je suis là, je suis « Oh putain, merde, qu'est-ce que je fais ?» J'ai pas envie de me battre, j'ai trop cool, tu vois. Et je me dis... Par contre, je regardais le mec, je le regardais bien, hein. Je me suis dit, bah, au moins, comme il voit que je le regarde, il va peut-être déclencher, ça va m'énerver, etc. Tu vois. Mais il a pas tiqué. Il a recommencé à l'insulter. Et je me dis, bon, là, il va falloir que j'y aille. Et puis, en fait, après, il s'est levé, il est parti. Mmh. Et je me suis dit, bon, bah, c'est cool. J'ai bien réglé le truc, finalement, j'ai pas dépensé. Mais en fait, ça m'est resté en travers de la gueule très longtemps.
Mmh.
Et la preuve, je t'en parle encore, ça doit faire 10 ans. Et, ou 12 même. Et je me suis dit, c'est injuste d'insulter une vieille comme ça, sans que rien que je fasse. D'un autre côté, je serais intervenu. Là, si on fait l'analyse.
Ouais.
En gros, en clair, hein, soit je vais pour discuter, le mec il me prend pour un faible et il va essayer de me... D'accord ? Donc je peux jouer ce truc-là et me dire que quand il va commencer à devenir agressif, moi je suis en légitime défense, etc. Soit je fais l'attaque éclair.
Ouais.
L'attaque éclair, c'est-à-dire j'avais 5 mètres à faire de mon strapontin. Je fais blaah, puis il voit pas le jour, je laisse, tu vois. À côté, il y avait deux femmes à côté qui avaient déjà très peur, la grand-mère à côté. Je me dis, quand tu développes autant de violence... tu les choques aussi, quoi.
Ouais.
Je t'avoue que j'ai pas eu la... Tout en ce plus, que je sais, c'est que j'ai été mal.
C'est énervant, mais ça reste une incivilité d'un abruti. Mais quand t'analyses, tu prends un peu de distance avec les situations, tu dis, bon, il n'a pas eu d'acte physique violent.
Ouais, ouais.
Du coup, ça peut être un peu disproportionné d'aller l'avoiner direct.
Exactement.
Même s'il mérite. Mais... Parce qu'après, il y a ce qu'on a envie de faire, et puis il y a ce qu'on...
Puis t'es dans un métro, il y a, il y a les caméras, il y a tout ça, il faut voir tout ça aussi. Hein.
Ouais.
Et puis effectivement, je me suis dit, bon, la limite que je m'étais dit, je me dis, le mec il bouge, il se lève, il fait un truc, je le chope en plein vol.
Ouais.
Et il n'a pas bougé, donc après, le seul moment où il se lève, c'est pour descendre, en insultant tout le monde. Et voilà, mais d'un autre côté, oui, j'étais content de ne pas être intervenu. C'est comme un pote un jour qui me dit « Ouais, Harry, je suis pas bien, c'est un copain qui était pompier, qui me dit « J'arrive dans je sais plus quelle gare de métro, je vois un SDF qui est un peu vénère et puis qui demande du blé à une nana, la nana elle a peur, il la coince, il commence à regarder à gauche, à droite, tu sens qu'il est malveillant et puis il lui met la pression pour qu'elle lui donne et elle est en train de flipper et il dit « Moi, je suis passé, je me suis arrêté, je l'ai regardé et j'ai tapé du pied par terre, j'ai fait « clac » comme ça. » Et le mec, il a regardé. Et le mec, il s'est dit, parce que mon copain était bien athlétique quand même, il s'est dit, il a lâché l'affaire.
Ouais.
Et mon pote, il me disait, je suis pas bien, j'aurais dû intervenir et tout. Et moi, je lui dis, mais pourquoi t'aurais dû intervenir? T'as fait exactement ce qu'il fallait. Ça t'a coûté rien en énergie. Il n'y a pas eu de blessé, ni la nana, ni toi, ni le mec. T'as pas de problème juridique, tu continues à... Voilà. Mais ça le faisait chier de pas être intervenu en lui mettant... Tu sais, on a ce côté un peu... C'est les films, hein, les trucs... Faut que je mette ma grande droite dans la gueule pour qu'il comprenne la leçon. Parle. Sauf que quand tu vas lui mettre une grande droite dans la gueule, il va te sortir une lame, tu l'as pas vu. Ou alors tu vas le fracasser, il va tomber parce que c'est un SDF, il est en mauvais état. Et le mec, il meurt ou il devient handicapé. Et bon, c'est compliqué tout ça.
Ça arrive, hein, les histoires comme ça, j'en ai entendu plusieurs. Et même moi, j'ai eu une réalisation, parce que c'était ma spécialité, c'était de pousser très violemment les gens. Ça les faisait redescendre en fait tout le temps. Ça les faisait un peu. Moi, j'ai pas fait d'hypnose, mais on a Panck, je sais pas si tu connais, qui est. Panck, c'est le prof de JBC qui a une chaîne YouTube qui est très connue, assez connue dans l'hypnose.
Je regarderai, ouais.
Et donc, il me parle souvent, tout ça, on discute beaucoup. Et c'est vrai que des fois, tu refais descendre les gens vraiment dans l'instant présent, tu vois. Alors ça peut avoir deux effets, ça les fait, ça les calme ou ça les énerve. Mais moi c'était un de mes trucs tout le temps en situation, je, bam, les mecs je les poussais mais très très fort. Et une fois j'ai un mec comme ça qui était en fait pas très solide je crois et qui est tombé. Et là j'ai vu la tête qui partait en arrière, heureusement il est tombé dans des poubelles. Mais s'il était tombé sur le bitume, il serait fait très mal à la tête. Et là, j'aurais pu vraiment le regretter, je pense. Tu vois.
Ben voilà, ben tu sors exactement une anecdote qui m'est arrivée. Pour défendre mon frère, un jour, il se fait agresser par deux frangins. Deux frangins que je connaissais, des petites teignes un peu, tu vois. Et moi, j'arrive, on vient me chercher, on me dit « Ouais, ton frère, il est en train de se faire agresser. » Alors, je vois les deux, là, qui sont en train de lui mettre des tartes dans la gueule. Ça m'énerve direct. Et moi, j'arrive dans le dos d'un. Et comme ils sont deux, la solution que je trouve, c'est de pousser très fort le premier et de m'occuper du deuxième. Alors j'ai poussé très fort le premier, j'ai mis une droite au deuxième, sauf que le premier, il a bouffé le mur, j'ai mis un quart d'heure à le réveiller.
Ouais.
Et j'étais vraiment en panique, parce que je me suis dit, putain, le mec, je me rappellerai toute ma vie, il a fait comme ça, la tête est partie en arrière, tu vois, fait, je suis arrivé dans son dos, donc là, déjà, ça lui a fait le coup du lapin, et après, bam, il a donné un dans le mur, et après, mais le chaos de chez chaos, quoi. Et donc, moi, j'ai mis une droite à son pote, enfin à son frère. Et après, on était tous en train d'essayer de ranimer le mec, quoi. Tu vois, parce que là, l'autre, il croyait qu'il allait perdre son frère. Moi, je croyais que j'étais dans la merde jusqu'au cou. Et puis même, j'avais pas envie de tuer un mec, quoi.
Bah oui, c'est dur. Après, tu te dis, enfin, tu vas pas dire il l'a mérité, mais en même temps, il a cherché, il a cherché des problèmes, il les a trouvés, bah, tu vois.
Ouais.
Mais c'est sûr que t'as pas envie d'arriver sur des conséquences dramatiques comme ça.
Ouais.
Et tu peux pas toujours maîtriser ce que toi, tu vas faire à l'autre, parce que bah, il se passe toujours des choses imprévues, hein, c'est pas... et ce qui peut t'arriver à toi aussi. Quoi.
Ouais.
Du coup, c'est vrai que moi, en tout cas, en vieillissant, j'arrive à beaucoup plus relativiser. Je vois des choses qui m'énervent, mais c'est vrai que j'évite de jouer trop au justicier, parce que...
Moi, je parle beaucoup.
S'il se passe réellement quelque chose de physique, oui.
Mmh.
Pour toutes les incivilités, il y en a tellement... Bon. Sauf si je suis vraiment pas de bonne humeur ce jour-là, mais là, la plupart du temps, je suis plutôt de bonne humeur, donc en tout cas, je m'énerve plus comme avant, et parce que je me dis que ça vaut, enfin, faut choisir ses batailles en quelque sorte, tu vois.
Ouais.
Et mais je dis pas que j'ai raison de faire ça, mais c'est vrai que je mesure plus tout ce qui peut mal se passer, tu vois.
Ouais, c'est le problème.
Avant, quand t'es plus jeune, tu réfléchis pas, t'y vas, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas évident parce que t'as l'envie des fois. Et puis après tu dis mais non parce que là c'est
il y a des moments tu
côté
dis,
risque
coût bénéfice quoi
ouais,
évaluation coût bénéfice là tu penses plus au coût hein, dans quand t'es jeune tu penses plus au bénéfice d'agir hein, et puis quand t'es vieux tu penses plus qu'au coût, donc faut trouver le bon ratio aussi pour pas être en retard non plus du truc, parce qu'il y a des fois tu peux regretter de ne pas avoir agi, mais
moi aussi clairement t'as des trucs qui te restent en travers de la gorge
alors ça c'est l'ego
longtemps
c'est l'ego et le en fait faut. Dans la pyramide de Maslow, tu as ressenti une atteinte à l'estime de toi.
Ouais.
C'est un étage assez haut. Et en fait, faut recaler les choses parce qu'en fait, tu as préservé ta survie, qui est un état fondamental du bas. Et voilà quoi. Mais quelquefois, je vais le résumer, putain, ça fait chier.
Oui.
Il y a des fois.
Ça fait du chien parce que putain, ça ferait du bien.
Ça ferait du bien. Tu vois, la bonne claque pédagogique qui se passe bien, le petit crochet au menton. Éducatif, tu vois, à un moment je faisais j'ai eu ma période direct au plexus.
Ouais.
Alors faut pas que ce soit l'hiver avec un gros manteau, c'est pas mal le direct au plexus aussi, ça a pas l'air, mais les karatékas connaissent bien, moi j'ai fait du karaté et c'est vrai que karatéka ils t'en mettent des beaux.
Ouais.
À cette époque là j'avais des karatékas qui s'entraient avec moi et j'avais repris ce truc là. Et le direct au plexus, on va pas faire la... Il peut aller déposer plainte, il va dire j'ai un bleu au plexus, enfin, bon, c'est pas terrible, c'est mieux qu'un pif cassé quoi.
Ouais. Et toi, j'ai l'impression que tu as réussi quand même à rester pas trop cynique et tout, parce que j'ai vu quand même plusieurs, parce que tu as travaillé à l'anticriminalité. Je connais des gens qui ont été en bac, tout ça, ou même sur des coins un peu chauds, mais pas spécialement en bac et tout, ça les change en fait, tu vois, d'assister à tout ce qu'ils assistent, et une sorte de cynisme qui se crée, et tu vois, tu deviens un peu déconnecté de la réalité des autres, tu vois, de ce que nous on vit, quoi.
T'as une réalité noire. Moi, j'ai eu ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais de la chance. J'avais deux, trois trucs. Déjà, je fais de la musique depuis très longtemps, et de la boxe, et des sports de combat. Donc, j'ai été aussi avec beaucoup de gens de toute origine. Moi, je suis un mélange aussi, hein. Je suis un mélange algérien-français. Je dis ça, c'est important. Parce que, après, moi, j'ai travaillé dans les quartiers vraiment, le premier, le deux, enfin, t'as Pigalle, t'as la Goutte d'Or, t'as tout ça. Ouais. Donc, très bigarré. Hein. Mmh. Et quand tu travailles là-dedans, t'as tendance à te dire ah, bah, tiens, puisque tu travailles à beaucoup, on va le dire, des Arabes, des Noirs, etc., tu te dis bah, c'est tous des voleurs, en fait.
Tu stigmatises.
Mmh. En fait, tu stigmatises. Et les mecs qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le contre-exemple des gens. Moi, j'avais des gens merveilleux de toute origine qui faisaient la zik avec moi, de la boxe. Et ça m'a permis déjà de ne pas stigmatiser. Alors déjà, il y a un truc important, parce que quand tu ne stigmatises pas, tu n'arrives pas avec une idée préconçue dans ta tête. Et ça se voit. Mmh. Parce que quand tu arrives avec, c'est un arabe, il a une casquette, un survêt, c'est forcément un délinquant. Quand tu as ça dans ta tête, l'autre, il le sent. Mmh. Et lui, il a la même chose de l'autre côté. Hein. Mmh. C'est un bleu. Il a l'uniforme et le machin, il va être violent avec moi, il va machin, etc. Voilà, donc déjà, tu as ce phénomène-là. Après, tu as un autre phénomène qui est que quand tu es dans l'anticriminalité, quand tu fais de ça ou dans des quartiers difficiles, ton quotidien, toute la journée, c'est de te taper du malheur.
Ouais.
Tu vois des gens qui sont fait agresser. Mmh. Injustice, ça te touche, toi. Hein. Tu vois des gens qui sont fait blesser. Tu vois des gens qui ça, des incestes, des machins, des trucs. Ton quotidien, c'est ça.
Ouais.
T'es confronté au noir toute la journée. Quand je dis au noir, t'es au bas de.
Ouais.
Voilà, des mauvais sentiments, les machins. Et il faut que tu sois solide, hein, toi, quand tu rentres chez toi. Alors, t'as des mecs, ils n'ont pas de robinet d'évacuation.
Ouais.
Ils font pas de sport. Voire pire, ils boivent, ils fument, ils ont une mauvaise hygiène de vie. Ils s'engueulent avec leur bonne femme, ça se passe pas bien au truc. Voilà, moi, j'ai vu des mecs que j'adorais tomber dans la violence. Des flics, hein, que j'ai vu tomber dans la violence. Et moi, je vais te dire, même plus loin que ça, j'ai quitté la voie publique parce que je sentais que je tombais dans la violence. Quand je faisais de l'anticriminalité. C'est un jour, un mec... je te raconte l'anecdote parce qu'elle est intéressante quand même. C'est... tu préfères... T'as les Pakistanais qui vendent des trucs, t'as plein de gens qui vendent des trucs à la sortie des métros. Et moi, je travaillais au quartier Goutte d'Or. Donc, ce qu'on faisait en fin de service, c'est en début, en milieu et en fin de service, le patrouille, tu passais et t'évinçais un peu les mecs. Pourquoi tu faisais ça? Parce que la loi n'autorise pas à vendre. Normalement, on aurait dû les embarquer, etc. Mmh. Tu te fais pas chier avec ça. Tu leur dis juste, allez, gars, allez voir plus loin si j'y suis. Tu sais qu'ils vont revenir dans une heure, mais pas grave. T'avais plus rien truc. Pourquoi? Parce que ça gêne les gens qui sortent du métro. Et quand il y en a trop, les mecs marchent sur la rue, ça bloque la circulation. Et il y a toute une chaîne de choses, de conséquences. Et on rentre au service, on était à pied, de patrouille à pied avec un pote. Et puis le pote, il me dit, bah, tiens, il y a des mecs qui sont remis là-bas, je vais leur dire de se barrer et puis je reviens, tout. Oh, je traverse même pas avec lui, tu vois, fraude d'ailleurs, entre parenthèses. Je reste pas avec mon binôme. Mais par contre, j'observe, je suis de l'autre côté du trottoir. Il y va, les mecs se partent et ça se passe mal avec un mec. Je vois que le mec, il renacle et tout, il fait des grands gestes, il vient près de mon... Ouais, puis voilà, donc j'arrive, je me dis, ah, ça chauffe un peu, je traverse, je vais lui assurer la protèque. Je me mets dans son trois quarts d'eau, je le laisse parler. Et vous voyez le mec le tutoyait, d'accord? Mon collègue, vous voyez. Alors, ça peut faire rire les gens qui nous écoutent parce qu'ils ont plutôt été habitués à des flics qui tutoient. Moi, j'étais chef de patrouille, j'ai toujours imposé le vouvoiement à tout le monde. Marque de respect. Après, ça peut changer dans le truc, mais au début, marque de respect à tout le monde. Et le mec, il dit, ouais, je m'en barre les couilles de tes lois et tout. Moi, je les connais mieux que toi, les lois. Et moi, j'interviens, je dis, monsieur, mon collègue vous voit, vous êtes prié de le voir, il dit, qu'est-ce que t'as, toi? Et il me lâche un molard sur les pompes. Et là, j'ai vraiment vu rouge. J'ai vraiment vu rouge. Et je sais pas comment je me suis... Alors, j'ai fait un bond de 2 mètres, je l'ai attrapé par le cou, je l'ai soulevé, j'avais le poing armé, et j'avais envie de le défoncer, mon pote, il dit, ah, les gars, et j'étais, mais, ivre de colère. Vraiment, tout le truc qui sort d'un coup, tu vois. Et finalement, je l'ai posé à terre, il s'est retourné, j'ai mis un coup de pied à lui démonter le coccyx, un coup de pied au cul, mais de ouf, quoi. Et le mec, il est parti, comme ça, qui répète, et bon, là, visiblement, je l'avais impressionné, parce qu'il était tout... Il avait une moins grande gueule, on va dire. Et puis, et là, je me suis dit, Eric, t'es en train de péter les plombs. Là, faut que tu changes de taf. Et en fait, de l'anticriminalité, après, je suis passé, j'ai demandé, j'ai passé animateur sportif, moniteur de tir, tout ça. J'ai fait toute une formation sur 1 an, et je suis passé, donc, dans la formation. Donc, plus l'anticriminalité, mais de la formation. Et ça correspondait en même temps à l'époque où je m'entraînais pour la compète. Donc, j'étais dans une belle salle de sport dans le 7e arrondissement de Paris, où il y avait très peu de collègues qui venaient s'entraîner finalement, parce qu'ils avaient une belle salle de sport, tout, mais pour s'entraîner, c'était une autre histoire. Alors, s'entraîner, ça voulait dire une table de ping-pong, 2 mecs qui jouent, 10 mecs qui fument autour. Hein, tu vois le truc?
C'est ça.
Et puis voilà, quoi. Donc.
Mais c'est vrai que je pense que c'est dur à conceptualiser pour la majorité des gens, tu vois. Quand ton quotidien, c'est tout ce que tu décris. Enfin, tu restes humain, tu peux pas avoir la bonne réaction, même si c'est ton devoir, mais tu restes un humain. Et c'est vrai qu'à force de voir des choses comme ça, cet univers-là et tout, et des gens, bah, on a tous une limite, hein. C'est-à-dire que tu vas essayer de rester respectueux et tout ça face à quelqu'un qui n'est pas avec toi, mais bon, au bout d'un moment, c'est l'être humain qui parle. Alors tu devrais pas, je pense que t'as senti que ce moment-là, il fallait changer.
J'étais en train de...
Voilà, et que c'était pas que tu voulais pas devenir ça.
Non.
Mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. On peut juger rapidement gens. Alors après, c'est sûr qu'il y a de la violence policière qui est complètement inutile et exagérée. Mais des fois, faut...
Il y a un truc qui est intéressant déjà à noter. Déjà, moi, c'était tranquille à l'époque. Hein. Je te parle de ça, c'était quoi, 1991, hein. C'est le siècle dernier.
Ouais.
Et maintenant, c'est autre chose. Hein. Les mecs, ils sont insultés, ça pue aucune commune mesure avec ce qui se passait avec nous.
Ouais.
Hein. Il y a les portables, il y a les réseaux sociaux, il y a autre chose, c'est ils sont tenaillés entre une hiérarchie qui leur dit surtout pas de vagues, parce que la hiérarchie, elle veut pas de problème, elle veut faire une carrière. Les mecs sont pas formés, il faut le dire, putain. Mmh. À l'heure actuelle, 21e siècle, ils sont toujours pas formés en gestion de conflits, toujours pas. C'est mon boulot maintenant, moi, à plein temps, je forme plein de publics. Les contrôleurs de titres dans les transports en commun, je les forme. Les soignants... J'ai plein de publics que je forme, mais il n'y a pas la police. La police, ils n'ont toujours pas de formation. Tu ne leur apprends pas à gérer leur stress, tu ne leur apprends pas la communication, tu ne leur apprends pas à gérer les conflits. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils peuvent.
Ouais.
Et il y en a pour qui la stratégie, c'est de se mettre une armure, d'être con, ou d'être violent, parce que ça les protège, quoi, parce qu'ils sont impactés, en fait. Et puis, il y en a d'autres qui ont des dons pour la communication. C'était mon cas. Moi, j'avais un don pour la com. J'arrivais déjà à faire pas mal de trucs avec la com. C'est pour ça d'ailleurs qu'après je me suis intéressé à la communication et que je me suis formé sur mon temps libre. Mais ça devrait être, c'est pas un métier comme ça, ça devrait être obligatoire, un truc comme ça.
Non, c'est sûr qu'il y a un problème de formation en France dans la police.
Y compris en sport de combat, si on y veut. Parce que moi, ça m'a toujours étonné que des policiers qui sont censés défendre la population n'aient pas plus d'entraînement, quoi. Il y a du surpoids, les mecs qui fument comme des sapeurs. Bon, maintenant, il y a plus de sportifs qu'avant, je pense. Hein. Je vois des profils un peu plus athlétiques qu'avant. Mais pour moi, ça devrait faire partie de la fonction, point barre.
Mais j'avais c'est secrétaire général, je crois, d'un des syndicats de la police qui m'avait contacté, qui voulait que j'essaie de faire un projet avec eux pour les former et tout. Parce que moi, je lui avais expliqué aussi, hein, c'est comme un boxeur, même un boxeur pro, un champion du monde, quand il arrête de s'entraîner, il a besoin souvent de 3 mois pour se préparer pour son combat. Au départ, ses réflexes, ils sont plus tellement calés, il est plus aussi bon sur ses techniques précises, tout ça. Il a la technique, mais elle sort pas au bon moment, comme il faut, il a besoin de s'entraîner. Alors, si un mec de ce niveau-là, qui s'est entraîné toute sa vie, qui est champion du monde, il a besoin de ça, comment tu peux considérer qu'après l'école de police, il n'y a presque plus rien et tu vas réussir à sortir des techniques sans jamais les répéter? C'est pas possible.
C'est pareil, l'école de police, faut voir ce qu'il montre. Parce que moi, j'ai été. Mon dernier poste était formateur à l'école de police, à l'ENPP, à Vincennes. Là. Il y a des collègues qui enseignent les sports de combat qui connaissent rien en sport de combat. Ouais. Quoi. Souvent, ils prennent un élève qui est bon pour faire le cours. Ouais. Ils n'entravent que dalle, les mecs. Et quand je te dis sport de combat, c'est pareil. Tu entraînes les mecs en sport de combat, alors que la réalité de terrain voudrait que tu les entraînes en self-défense, quelque chose d'adapté à la rue.
Ouais.
Où tu t'entraînes en uniforme, avec des choses, avec du matos sur toi qui te gêne. Voilà, et ne serait-ce qu'un blouson. Un pain quand t'as un blouson, c'est pas la même chose qu'un pain quand t'es en t-shirt. Hein.
Ouais.
Apprendre et à donner, d'ailleurs. Et puis, il faudrait vraiment quelque chose d'adapté. Moi, d'ailleurs, mon passage policier à l'ENPP, avec Robert, on avait été sollicité pour commencer à réformer la self-défense, qu'on a commencé à faire, d'ailleurs, à l'époque.
Ouais, mais j'ai un de mes amis qui est aussi pratiquant de longue date et tout, qui a fait le gendarmerie et police, et il m'a dit, les techniques qu'il nous montre... Il a fait beaucoup de jiu-jitsu brésilien aussi, tout ça... Et les moments, il montrait les trucs au sol, il fait non.
Bah oui.
C'est juste pas possible ce que t'es en train de montrer. Enfin, vas-y, fais-le vraiment. Et en fait, ça marchait pas, tu vois.
Oui, oui.
Bon, Ça, mais ça va pas changer comme ça. Je sais pas ce qu'il faut pour que ça change.
Qu'ils me mettent ministre de l'Intérieur.
Pourquoi pas, hein. Non, putain, pourquoi pas.
Ça va être une galère de prendre ce poste, je te dis pas. Moi qui les ai protégés, je vais te dire, j'ai pas envie de
la
prendre
politique,
la place.
La politique, ouais, ça, moi, ça donne pas envie, je trouve.
Ouais.
Mais, ok, bon, bah écoute, et juste une dernière question, parce que je sais qu'on a tous les deux, on est un peu pressés après, donc on va pas pouvoir faire un podcast aussi long que je fais d'habitude. D'où ça t'est venu, du coup, cet intérêt pour la CF Défense est-ce que c'est le fait d'avoir été bagarreur et tout ça ou c'est quoi, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est le truc originel. C'est en fait défendre mon frère,
ouais.
Si tu veux. Et je me rappelle, là, j'ai un bouquin... Alors, quel âge je devais avoir? 12, 13 ans? Je sais plus qui m'a offert ça. Un bouquin sur la CF Défense de Roland Albert Setzer, avec les beaux dessins, tu sais, qui vont bien. Et il m'a passionné, ce bouquin. Il m'a passionné. Je l'ai lu des milliers de fois. Il est toujours dans ma bibliothèque. Et c'était, je me disais, bah voilà, le mec qui m'attrape. Alors, je prenais mon frère, qui, lui, n'était pas du tout passionné par la self-défense. Donc, je lui disais, attaque-moi comme ça. Je le tartais un peu, il gueulait, il repartait dans sa chambre. Après, je ne savais pas à qui demander, mais en fait, je me faisais des trucs et tout. Puis, je me disais, ça, ouais, ça, ça. Et je trouvais ça génial. Et la self-défense m'a toujours... Alors, les sports de combat, j'adore, vraiment. Bon, c'est des grosses passions, on est des passionnés, hein, toi, moi, et puis ceux qui nous écoutent sûrement, si c'est des trucs qui t'habitent, là, tu vois. La boxe française, c'est la maison mère, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai adoré mes périodes de boxe française, les gens, les entraîneurs, j'ai vraiment adoré ça. J'ai un peu moins adoré la fédération de boxe française, mais ça, c'est autre chose. Encore qu'il y a des représentants de la fédération que j'ai vraiment, vraiment qui étaient fantastiques. Et donc Jean-Michel Raymond, pour le citer, Marc Brégère, je les cite comme ça s'ils s'entendent, c'était vraiment des gens fantastiques que j'ai adoré. Et puis d'autres mecs encore. Hein. Voilà. Et en fait, la CF Défense, c'est, pour moi, c'est la. Comment te dire? Tu sais, c'est la liberté de créativité. Mmh. C'est vraiment. Tu vois, en sport de combat, t'es obligé de stéréotyper par rapport à un règlement.
Ouais.
Donc un mec qui fait de la boxe française, par exemple, il va avoir. Ni plus ni moins un jeu qui ressemble à un autre mec qui fait de la boxe française. Alors après, il va être plus ou moins souple. S'il est très souple, peut-être qu'il va faire des coups un peu aériens, etc. Mais ça sera de la boxe française, tu la reconnais tout de suite. Dans ce qu'on fait, nous, tu peux avoir des gens... moi, j'ai des gens qui viennent du karaté. J'ai des gens qui viennent du kung-fu. J'ai des gens qui viennent de tout, partout.
Ouais.
Et ils ont des styles hyper différents. Et tu découvres à chaque fois, parce qu'en fait, d'un coup, t'es face à un mec qui vient du karaté, il te plante un tsuki à la con. Mais et tu l'as pris, quoi. Ça te fait chier, tu l'as pris quand même. Et où il te fait des trucs un peu karaté. Alors ils prennent aussi dans la gueule, parce que souvent il a le menton à la fenêtre, comme on dit. Mais il a quand même, il a planté des beaux trucs. Et tu dis, ah ouais, après t'as un mec qui fait de la capoeira, qui va te danser partout, qui te met un coup, bah, tu l'arrêtes au dernier moment, t'as failli le prendre dans la gueule. Et il fait de la boxe de rue ou de la défense de rue avec nous. Et là, chacun a son truc, tu vois.
Ouais.
Et ça, j'adore. Comme moi, j'aime que les gens soient très différents. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est génial qu'il y ait du pencha, qu'il y ait du krav, qu'il y ait du kung-fu, qu'il y ait tout ça. On a une diversité de propositions. Putain, c'est génial. C'est comme si tu allais au restaurant, que tu as plein de plats savoureux. Mais... si on te sert qu'un plat en disant, oh, c'est celui-là qu'il faut manger parce que c'est le meilleur, ça te fait chier.
Bah, surtout que ce ne sera pas le meilleur pour tout le monde.
Bah non, en plus. Mais c'est comme les gens. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup voyager. J'aime les cultures très différentes. Et quand je voyage. Je me mets dans la culture pour voir, parce que c'est passionnant. Et à chaque fois, je découvre des trucs.
Ouais.
Dans les modes, les us de vie, les manières de vivre et tout. C'est génial. Ça, je le garde pour moi. Ouais. C'est bien. Ou alors, ça, j'aime pas, non.
Ouais.
C'est ça, en fait.
Moi, c'est vrai que la self-défense, ma seule problématique, si tu veux, avec ça, c'est que aujourd'hui, moi, les sports de combat, les arts martiaux, je pratique ça vraiment pour le plaisir. Je suis plus dans la recherche de l'efficacité tout le temps et tout ça, parce que c'est pour le plaisir, je me concentre sur les gens qui font ça pour le loisir, pas pour la compétition. C'est juste que les conséquences sont pas les mêmes, tu vois, de ce que tu vas enseigner en sport de combat, en loisir, parce que tu fais bouger les gens. Alors t'essayes bien sûr, tu leur apprends des choses qui fonctionnent, auxquelles tu crois, mais de temps en temps, tu peux te permettre de tenter des trucs un peu plus, fantaisiste, ou alors que tu dis, tiens, ça marche peut-être pas, mais ça va leur développer telle qualité physique, tel truc, tout ça. La self-défense, pour moi, t'as une responsabilité un peu plus importante. Parce que,
clairement, ouais.
Là, pour le coup, si t'as quelqu'un qui essaye de faire ce que tu lui as montré en situation et que c'était vraiment quelque chose d'inadapté, C'est ta faute, tu vois. Et les conséquences peuvent être vraiment dramatiques aussi, quoi.
C'est pour ça que nous, on a une formation de prof qui est vraiment pointue. Mmh. On leur apprend ça. On leur dit, les gars, fais pas de la self-défense pour faire des sous et pour se faire plaisir et parce que ça change. Mmh. Là, vous avez une responsabilité. Ce que vous allez montrer à la personne, si elle te croit sur parole, elle va le faire. Mmh. Et elle peut mourir. Donc, attention à ce que vous montrez. Il y a un autre truc aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'il y en a qui vont suivre des cours de self-défense et en fait, ils reviennent beaucoup plus anxieux que quand ils étaient partis.
Oui.
Parce que leur prof leur arrête pas de leur répéter « Ouais, l'agression, le machin, les trucs. » Alors, quand tu commences à former les gens à avoir de l'agression partout, problème, c'est que ça les rend parano, quoi. Oui. Et c'est pas le bon truc non plus. Moi, c'est ce que je dis. Vous allez prendre, en gros, 30 cours de self-défense, 35 cours dans votre année. Faut pas croire que les mecs viennent trois fois par semaine, hein. Ouais. Et plutôt une fois, deux fois, de temps en temps. Je dis, vous allez prévoir, en fait, on travaille pour une éventuelle agression qui va peut-être jamais arriver, d'accord ?
Ouais.
Ou qui va arriver dans une vie, une ou deux fois, ok ? Ça m'étonnerait que ça passe beaucoup plus, hein. Moi qui étais exposé, j'en ai eu 4 ou 5, on va dire, tu vois, en 14 ans, donc c'est pas énorme, hein, pour un mec qui fait ça tous les jours. Et donc tu dis, par contre, les 30 fois 2 heures que vous allez passer, donc les 60 heures, faites-vous plaisir, quoi. Vous allez être avec des gens, créer du lien social, aller déconner, ça n'empêche pas de travailler sérieusement. Mais voilà, c'est ça d'abord, le premier truc, c'est de vous faire du bien. Comme tu l'as dit, travailler sur la posture, la confiance en soi, ça va être le vaccin anti-agression. Comprendre les rouages des agressions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'expliquent pas. En fait, et pour conclure, hein, comme je le mets dans mon bouquin, c'est une somme de compétences qu'il faut avoir. J'en ai à peu près 20, on va dire. Ouais. 20 compétences qu'il faut avoir.
Okay.
Et en fait, dans un truc de self-défense, on en bosse une ou deux. La compétence à savoir se défendre physiquement, la compétence à attaquer physiquement. Ouais. Attaquer, c'était toi qui déclenches le premier, se défendre, c'est l'autre qui déclenche le premier. En gros, tu regardes, dans les trucs, c'est ce qui bosse. Eh ben, t'en as 18 autres.
Ouais.
Compétence à négocier, compétence à jouer avec ton attitude, compétence à t'enfuir. Pas du tout évident. Compétence à influencer l'autre, à intimider, par exemple. Tu dis, tiens, lui, je vais l'intimider parce que je peux pas partir, parce que exactement ce que tu disais tout à l'heure. Comment tu fais ? Comment tu fais avec tes yeux ? Comment tu bouges ? Comment tu fais ? Etc., etc. Compétence à faire le bilan si je me suis fracassé avec un mec, parce que j'ai le cassé. Compétence au discernement. C'est-à-dire, tu t'embrouilles avec un mec, ah merde, il y a son pote là.
Ouais.
Et donc, ça, c'est une anecdote que je voulais te raconter. Ouais. Qui était quand j'étais policier, je te propose de conclure là-dessus d'ailleurs. Ouais. J'étais chef de patrouille et je suis appelé. Un individu dangereux qui agresse les passants, attendent des renforts, etc. Bon, d'accord. On arrive place Stalingrad où ça se passait. On est 3 dans la voiture, dont un mec qui s'appelle Pierre Fator, un vrai pote que j'ai pas revu depuis très longtemps.
Ouais.
Et voilà, un chauffeur. Et puis là, je vois 2 motards. Et je vois pas ce qui se passe, parce que la rue est en contrebas, donc il y a un terre-plein central. Et je vois 2 motards qui sont posés, mais style posé, je suis en train de prendre mon temps, tout va bien, quoi. Donc la main, je me rappelle, c'est marrant les détails que tu retiens. Hein. C'est la main posée sur la selle de moto, et l'autre sur la truc. Et puis les mecs, je sais pas, ils seraient en train de regarder une fête foraine, un truc comme ça, tu vois. Bon, je me dis à mon pote, je lui barre dans la bagnole, c'est fini. Conclusion hâtive, parce que j'avais pas. C'est juste la posture qui m'avait indiqué que c'était fini. Je monte dire bonjour aux 2 motards. Je dis ça va les gars, c'est réglé et tout. Il dit non, regarde. Et là, je vois un mec qui avait chopé un autre mec qui allait au boulot en costard, cravate et qui lui mettait des pains dans la gueule. Et là, je switch pour le coup. Un truc qui me prend au fond du bide. Je retrouve mon frère en train de se faire frapper, en fait, tu vois, le truc comme ça. Et là, j'oublie tout. Je fonce bille en tête. Le mec, il me voit arriver, il jette le mec dans les bosquets, il se met en garde. Donc déjà, ça me donne une indication. Une garde avec une jambe avant, très en avant. Donc je me suis écarté, direct, tu vois. Et là, j'étais en pleine période compète, moi. Paf, la jambe avant, je lui latte avec un kick intérieur, quoi. Et je lui mets une droite. Il prend la droite plein fer, en pleine gueule, mais vraiment une belle droite, quoi. Je mets une gauche, tu sais, je fais circulaire interne, droite, et la gauche. Mais la gauche, comme j'avais touché avec la droite, la gauche, je la mets dans le vide. Un peu déséquilibré. Ça fait que je ramasse la tête, je lui mets un putain de coup de genou au plexus. J'ai toujours mis des coups de genou dans les bastons. J'ai jamais fait de boxe, d'ailleurs, enfin, c'est bizarre. Et je lui mets un coup de genou, il tombe. Putain, je tombe sur lui, je le retourne. La vidéo de promotion pour la police, tu sais. Je retourne, je sors mes menottes, clac, 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 je me lève, clac. Putain, j'avais pas vu, il était avec 4 mecs. J'avais pas vu les mecs. C'est pour ça que les motards, ils intervenaient pas. Ils étaient 5, en fait. Ouais. Et là, mon pote, grand moment de solitude, hein. Là, les mecs, ils sont fous furieux. La plupart sont avinés. Alors, le premier truc, quand je relève, c'est que je vois, et merci la boxe, je fais une esquive, je vois une canette qui m'arrive dans la gueule.
Ouais.
Et là, je fais une esquive automatique sans besoin de réfléchir. Et là, c'est là que je vois les quatre mecs. Et là, les mecs, ils essaient de me contourner pour me frapper. Heureusement, le mec est plus petit. J'ai relevé les menottes assez haut. Je me protège avec comme un bouclier. Il ramasse, hein, le mec. Parce que les mecs étaient à moitié destroy, donc ils tapaient comme des marteaux. J'en ai pas pris un coup. Et moi, je suis en train de descendre des petits escaliers en marche arrière, en me faisant latter. Mais comme c'est un escalier, ça réduit le champ, tu vois. Donc j'ai moins de monde en face. Jusqu'à temps que mon copain... Alors les deux motards, ils sont figés, ils ont peur. Ils bougent pas. Et il y a mon copain qui, Pierrot, qui arrive avec la matraque au vent. Là, il arrive, oh, puis il les prend trois quarts arrière. Il a deux, trois personnes. Après, c'est une baston innommable. On repart, je m'en rappelle. J'avais réussi à ouvrir la porte, parce que le chauffeur avait fait le tour. J'ai réussi à ouvrir la porte, jeter le mec à plat ventre sur la banquette. Donc, il était là, tu vois, ses pieds qui faisaient comme ça. À ce moment-là, je me retourne. Il y a un mec qui donnait des coups de pompe sur la bagnole. Je l'attrape, je lui mets une baffe monumentale. En pleine gueule, il tombe, je l'attrape et je l'étrangle. Et moi, je me couche sur le mec. Je préfère, je suis en sandwich entre le mec et sur plat ventre. Mec derrière, je suis en train de l'étrangler comme un pendu. Et là, mon pote Pierre, il arrive tant que bien de mal à remonter dans la voiture. Et on part avec les portes ouvertes, les pieds partout qui faisaient comme ça. Et là, je me suis dit, t'as appris une leçon un jour. Ouais. Regarde, analyse la situation avant de te jeter bille en tête dans un truc. J'avais absolument pas vu les autres mecs.
Mais moi, je trouve ça fou que des policiers comme ça doivent se retrouver à se battre, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut tirer sur tout le monde et tout, mais quand est-ce que tu sors ton arme, en fait ?
Tu peux pas sortir ton arme.
Ouais, c'est ça.
D'abord, Ben, nous, c'est un peu le contraire des États-Unis. Hein.
Oui.
Les États-Unis, là, ils flinguent à tout va, les mecs. Ah oui, il était noir, il courait, donc c'est sûrement un voleur.
Ouais.
Je lui mets 6-7 balles. Ah merde, non, c'est con.
C'était
une sucette qu'il avait dans la poche. Ouais. Ah merde. Nous, c'est un peu l'inverse. Nous, tu peux te faire tirer dessus. Je sais pas, tu te souviens à l'époque où il y avait les trucs dans les banlieues, là. On avait glorifié la police en leur disant oui, quel sang-froid, ils se sont fait tirer dessus, aucun n'a sorti une arme et tout. Ouais. C'est limite de la faute professionnelle en vérité. Hein. Ouais. Bon, mais voilà. Et moi, je suis pas du tout pour tirer sur les gens. Mais de toute façon, l'arme. Mine de rien, ça reste un problème. Hein.
Ouais.
Quand tu l'as sur toi, je sais pas quoi en faire. Hein.
Ouais, moi, j'avais j'ai eu plusieurs du coup élèves qui étaient dans la police. Il y en a un qui était au stup, commissaire divisionnaire, mais il continuait à aller sur le terrain. Et lui, par contre, il disait non, nous, on intervient sur des mecs lourdement armés. On sort nos, enfin,
il dit, moi,
et on n'a pas des talams souvent à tirer parce qu'en fait, c'est eux ou nous, quoi.
Ouais, ouais, là,
mais
là,
sinon, la plupart du temps, dans les contextes comme ça, c'est vrai que, enfin. Alors après, parce qu'on voit les films et tout ça, mais tu dis quand est-ce que tu vas recourir à ton arme ? Parce que clairement, t'es en sous-effectif, ils sont à plusieurs, t'as un mec qui est en train de tabasser, et ils essayent de t'avoiner la gueule, et toi, en fait, tu dois te défendre avec tes bras, quoi.
Ouais, et puis j'avais... Tu te rappelles pas de cette histoire, une fois, c'était un brigadier de police antillais à Boulogne, tu sais, le truc de foot, là. Et il y avait des mecs d'extrême droite qui avaient latté un juif. Il l'avait défoncé. Lui était venu pour le défendre. Il s'en est pris au flic aussi. Le flic était tombé. Il avait tiré une balle. Ça avait tué un mec.
Ouais.
Et à cette époque, mes copains, y compris de la boxe, disaient « Ouais, putain, les flics, c'est des enculés. Le mec, il pouvait pas lui tirer dans la jambe et tout. » Et j'avais fait un truc très bien, c'est que j'avais amené ces mecs-là au stand de tir.
Ouais.
Et je leur ai démystifié le truc. J'aurais dit « Bon, voilà, je t'apprends à tirer. » Donc j'ai fait toute une demi-heure. Il y avait deux mecs, hein, d'instruction au tir. J'ai dit, donc déjà, les mecs à 5 mètres, ils en mettaient partout, tu vois. Ouais. Avant de mettre quelque chose dans le... Tu vois, ils se rendent pas compte. Parce que dans les films, encore compliqué. Pareil, tu fais ce que tu veux.
Ouais.
Et après, j'avais pris un truc et je les ai stressés. J'avais mis la musique à fond, j'avais pris une espèce de... Enfin, une espèce de coussin, alors je leur tapais sur la gueule. Et je lui ai dit, bah, pendant que je fais ça, tu vas tirer. Et les mecs, ils avaient dit, putain, mais je lui ai dit, t'es à 5 mètres. Hein. Je les avais mis à 5 mètres. Hein. Je lui ai dit, vas-y, tu tires maintenant dans la jambe. Il y a pas de jambe sur les cibles, mais je lui ai dit, tu vises un truc précis, tu tires. Et puis, je mettais des coups. Ah ouais, d'accord. Mais je lui dis, bah, tu vois, il y a ce qu'on croit et ce qu'on fait. Moi, ce qui m'a étonné dans le mec, je trouve qu'il y a eu beaucoup de sang-froid parce que la plupart des flics, dans ce cas-là, auraient vidé leur chargeur sans même s'en apercevoir. Lui, il a mis une bastos. Et malheureusement, ça a tué un mec. Et il s'en a sûrement sauvé un autre.
Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, bon, c'est toujours... C'est triste à dire, mais il y en a, en fait... Tu veux pas te prendre une balle, tu fais pas, tu te mets pas à tabasser des gens pour leurs origines et tout ça, tu vois.
Ouais, ouais. Ouais.
Alors c'est, encore une fois, je dis pas que c'est mérité, mais non, tu te retrouves pas dans cette situation-là
par hasard. Tu fais des choix, il y a des conséquences. Mmh. Si t'acceptes pas les conséquences, c'est qu'il y a un problème. Ouais. À un moment, tu fais des choix, bah, je comprends, t'es voleur, t'es machin, t'es. Bah ouais, d'accord.
Mais on dit pas que tu mérites de mourir, mais non, en fait, il y a une prise de risque.
Il y a une prise de risque. Et à un moment, bah, je sais pas, tu fais de la moto sans casque, t'as une prise de risque, et tu glisses et que tu tombes, tu peux mourir.
Ouais.
Bah tu l'acceptes là. D'accord.
Mais c'est vrai que ouais, moi, ça me fait halluciner. Je suis pas pour qu'on soit comme aux États-Unis et que la police sorte les armes facilement comme ça. Mais c'est vrai que tu te poses la question, du coup, pourquoi avoir une arme alors? Parce que. Si c'est pour jamais pouvoir l'utiliser, autant ne pas la mettre, parce que tu es au risque, quand ça part comme ça, de te la faire prendre aussi, tu vois.
Bah, bien sûr, ouais.
Donc,
bah,
ouais. Ça, enfin, si jamais tu l'utilises jamais, bah, ça te met en danger. Donc, bah, autant ne pas l'avoir.
Quand tu vas au contact avec des mecs, moi, à l'époque, hein, c'est maintenant, ça a changé, hein, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, moi, quand j'allais au contact avec des mecs, je faisais assurer ma sécurité avec mes potes. Moi, j'avais la chance de bosser par équipe en anticriminalité. Je mettais mon blouson sur le truc. Ouais. Que au contact le mec puisse peut pas me le prendre parce que t'as un étui avec un fermoir mais il suffit que ça s'ouvre à un moment ou à un autre ça tombe ou n'importe et là tu vois à un moment tu te posais toujours la question on crosse dehors ou crosse dedans tu vois je fais quoi j'y vais comment ça va se passer bon après quand t'as des bons potes et que chacun a une place définie tu t'es entraîné un petit peu en trinôme et tout ça quand t'as des vrais mecs avec une vraie parce que c'est ça si on en parle pas assez mais une vraie technicité là les techniques de police ça se travaille ça s'apprend. Il y a chacun un rôle, ça, placement, mais quelquefois les mecs ils viennent pas à l'entraînement.
Ouais.
Donc c'est ça aussi. Hein,
Ok, bon, bah écoute, on va finir sur ça. Je trouvais ça très intéressant.
Moi aussi.
De voir aussi après, bah, justement, l'autre côté des fois de la vie de policier, ton parcours, comment t'en es arrivé là, pourquoi la self-défense aussi. C'est intéressant de voir d'où ça vient pour toi. Le côté l'activation et tout avec ton frère non il y a pas mal de pépites je trouve assez intéressantes et puis ravi de t'avoir rencontré on a échangé brièvement on a François en commun voilà c'était super sympa
ouais puis moi je t'ai découvert il y a quelques années ce que j'ai remarqué tout de suite et qui m'a plu c'est pour ça que j'ai orienté certains de mes élèves parce que nous on est ouvert on va voir ailleurs etc. C'est à l'instar d'autres aussi, comme d'autres copains qui sont sur le web, c'est que moi, j'en vois, je me dis, là, vas-y, c'est sérieux. Il y a du travail, il y a de la recherche. C'est pas un mec qui s'est inventé un truc en 2 minutes, quoi. Il y a du boulot. Et je le vois dans la manière dont tu fonctionnes, même pour préparer l'interview, tout ça, c'est professionnel, quoi. C'est ça que j'aime bien.
C'est important pour moi d'être pro.
C'est important. C'est important.
Bah, écoute, merci en tout cas. Et puis, à très vite.
À très vite.